on connaît la chanson.
1, 2, 3, 4.
Chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez. Et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
Aujourd'hui, je vous propose de passer un moment avec Delphine Couton. Delphine Couton qui prépare depuis déjà de nombreuses années un projet de système solaire qu'elle nous a présenté en partie dans des concerts satellites depuis un bon moment avec la bouche d'air, avec des scientifiques, avec des philosophes. Et aujourd'hui, elle parle de ce projet. Elle nous fait entrer dans les coulisses, dans les prémices de quelque chose de très important dans sa carrière, je pense. On l'écoute. Alors Delphine Couton, je la connais bien depuis un certain temps, ne serait-ce que parce qu'on a fait une interview à l'Arsen. Elle est revenue une autre fois en compagnie de Mathieu Ballet chez mon oncle pour présenter la Nuit Philharmonique. À l'Arsen, c'était pour la marée. Là, il y a 8 personnes sur scène et aussi en enregistrement dans un nouveau projet qui s'intitule « Deux systèmes solaires ». Alors, j'ai oublié de te dire bonjour. Bonjour quand même, Delphine.
Bonjour, Georges.
Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un nouveau projet dont on a déjà entendu parler dans la presse, dont tu as déjà donné des échos. Tu as donné aussi des concerts satellites, il va falloir que tu nous expliques un peu tout ça, qui étaient un peu des amorçages, en fait, ou des préludes à la présentation du projet. Aujourd'hui, tu es dans la phase finale de sortie de l'album, donc vous êtes 8 dans l'enregistrement, et de présentation à la Bouche d'air le 15 décembre, donc dans quelques jours, vous êtes 8 aussi sur scène, avec un effectif important dont je voudrais que tu nous parles. Mais avant ça, il faut qu'on écoute un premier morceau. Donc j'ai décidé comme ça, tout seul, d'ouvrir avec la chanson qui ouvre l'album, Mon manteau d'hiver. D'accord ? On l'écoute et on poursuit notre conversation après.
Pousse des camélias.
Alors dès l'abord, on a écouté Mon manteau d'hiver, on écoute ce texte qui dit des choses un peu, comment dire, pas très faciles à comprendre. On se demande qui parle, on se demande où on est. Et puis il y a déjà une première énigme, c'est ces deux systèmes solaires. Nous on en connaît un, où est le deuxième? De quoi s'agit-il? Il va falloir que tu donnes un certain nombre de clés à nos auditeurs pour cet album qui est pour le moins pas évident à comprendre. Delphine, à toi de jouer.
Mon manteau d'hiver, c'est la première chanson que j'ai écrite quand je me suis mise à penser à ce nouvel album. Et très vite, j'ai eu ce titre, Deux systèmes solaires. Alors, je savais que je voulais parler de planètes, de roches. Je suis partie d'un imaginaire que j'avais. J'ai été puisée un peu dans mes rêves, dans les images. Et il y avait une grosse présence du minéral. Et a priori, une grosse absence du vivant au départ. Et donc, le challenge pour moi, ça a été d'aller faire parler toutes ces pierres et de retrouver du mouvement, de la vie. Et petit à petit, je me suis rapprochée de chercheurs en planétologie, en géodynamique. Ça a été des rencontres passionnantes. Et en fait, on cherche tous le mouvement, la vie. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé. Mais mon manteau d'hiver, c'était le démarrage. Et mon manteau d'hiver, c'était le constat de la glace, du truc qui... qu'est-ce qu'on peut faire de cette matière inanimée, figée, alors là, en plus, froide. Et dans la fin de cette chanson, j'en arrive à dire que finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais sculpter la glace et que je vais tailler la pierre et que ça va être ça, mon job. Et c'est aussi le boulot de l'artiste, quelque part, on a quelque chose qui nous résiste.
De partir d'une matière brute.
Quelque chose qui résiste et qui ne donne pas son secret. Au départ, même c'est très déstabilisant et puis c'est dur, même psychologiquement, je trouve, d'avoir quelque chose aussi peu bavard au départ et de se dire, c'est pas grave, je m'empare de ça et je vais en faire quelque chose. Donc comme le sculpteur, je vais sculpter cette matière, même si moi, c'est par la musique.
Alors, on pourrait considérer que cet album est un album concept. Hein, on va appeler ça comme ça. C'est d'un bout à l'autre, en fait, toutes les chansons se tournent autour de cette question minérale, en quelque sorte. Hein, on va appeler ça comme ça. Et cet album concept, il est très éloigné dans sa... dans ses préoccupations de ce qui fait le quotidien de tout un chacun. On est dans les chansons, habituellement on parle d'amour, on parle de relations, on parle de choses futiles, on parle beaucoup de sentiments. Là, c'est pas vraiment le sujet quand même. Il y a quand même un truc, hein, je me permets ce commentaire. Pour le moment, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi deux systèmes solaires.
Alors, deux systèmes solaires qui est justement cité dans la chanson Mon manteau d'hiver, c'est que au milieu de ce grand hiver, au milieu de ce froid, au milieu de ces choses pétrifiées, en soi, enfin moi en moi, j'ai eu le sentiment que cohabitaient deux, alors je les appelais les deux systèmes solaires, mais c'est comme deux énergies en fait. Et qu'il y avait certainement cette énergie de glace, mais qu'il y en avait une autre qui faisait aussi tout son cheminement à côté, et qu'il y avait une autre histoire à raconter, il fallait que j'aille la chercher. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que j'ai été travailler auprès des chercheurs ou des scientifiques, je me suis approprié le plus possible leur matière scientifique, avec toutes les limites de l'exercice. J'ai puisé dans leurs mots, dans leur vocabulaire, dans leurs recherches. Et j'ai proposé quelque chose que permet la poésie, c'est-à-dire une deuxième version de ce que peut être l'univers, une deuxième version de ce que peut être un système solaire, une deuxième version de ce que peut être la galaxie du sculpteur, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle aussi comme ça.
Qu'on écoutera peut-être tout à l'heure.
Voilà, et notamment, je me suis amusée dans la galaxie du sculpteur, qui est une... Enfin, cette constellation, on la voit seulement depuis l'hémisphère sud, et c'est un hémisphère où il n'y a pas du tout de nom de dieu, de la mythologie, c'est vraiment que des métiers, des choses comme ça. Moi, je me suis amusée à aller mettre les dieux de la mythologie dans cette galaxie où normalement ils n'étaient pas du tout nommés. C'est ce que permet du coup la poésie et l'art.
Tu deviens un démiurge en quelque sorte, tu réinventes un univers dans lequel tu déplaces les constellations.
C'est
bravo.
C'est exactement ça. Mais
voilà un projet franchement ambitieux.
C'est le privilège de l'artiste.
Oui, tout à fait.
De pouvoir faire ça, donc autant s'en saisir.
tout à fait. Tu parlais des mots tout de suite. Et effectivement, dans les textes des chansons, il y a un certain nombre de mots qui sont des mots peu courants. Hein, j'ai plus en tête le mésozoïque, voilà, c'est ça.
C'est une ère.
Celui-là m'a particulièrement frappé, mais il y en a d'autres. Ces mots-là, en fait, c'est des mots, si je comprends à ce que tu dis, sont des mots que tu as trouvés auprès des chercheurs, auprès de gens qui t'ont introduite dans leur vocabulaire, dans leur histoire. Ça, c'est devenu pour toi aussi un réservoir poétique, finalement.
Complètement. En fait, il y a eu plein de mots que je trouvais très très beaux. Mésozoïque, je le trouve en plus rigolo. Enfin, il y a quelque chose qui me plaît énormément là-dedans et qui me permet aussi d'amener du décalage dans la chanson. Mmh. Aussi des fois de l'humour. Et il y a aussi des fois des expressions qui étaient très belles. C'est-à-dire qu'un chercheur, il va dire avec beaucoup de naturel cet acouphène sépulcral dont on parle, c'est l'unisson des marées. Alors, quelle phrase
oui, dont on voudrait bien avoir le déchiffrage.
Dans une chanson, il parlait des fréquences. Il y a un moment, il y a une vibration terrestre où toutes les marées vibrent exactement la même fréquence. Nous, on ne peut pas l'entendre, c'est vraiment trop, trop grave. Mm-hmm. Mais eux, ils en parlent comme un événement normal, quotidien. Par exemple... tu vois, Delphine, sous tes pieds, là, sous cette plage en Bretagne, là, il y a l'Himalaya. Parce qu'il y avait très longtemps...
Tu le dis dans une chanson, d'ailleurs.
Oui, moi, je me suis saisie de tout ça, parce que c'est tellement beau. Un géologue avec qui je parlais, il me dit, mon métier, c'est de voir la montagne bouger.
Il y a très longtemps, parce qu'effectivement, les sables ont été charriés par les mers et ils peuvent très bien provenir de la décomposition des roches de l'Himalaya, les sables de Bretagne, c'est ça. Je me souviens d'avoir vu un documentaire sur
là-dessus,
le sable.
Ouais.
On expliquait ce genre de choses.
Il y a ça et il y a aussi qu'il y a eu des montagnes à cet endroit-là. Alors moi, je ne me rappelle plus exactement les périodes, à quel moment,
oui.
Mais ça fait partie des récits sur ces lieux.
Alors, le Mésozoïque, c'est quand?
Alors l'ère Mésozoïque, alors, je ne me souviens plus exactement du nombre d'années, mais je peux quand même parler de ça. Je peux quand même parler de ça puisque j'en parle à propos d'une plante qu'on surnomme la fleur de pierre. Donc elle m'intéressait beaucoup parce que j'étais toujours dans mon imaginaire de cailloux et de pierre. Mais là, tout d'un coup, surgissait une fleur de pierre qui fait partie tout d'un coup du vivant puisque c'est une plante. Et cette fleur de pierre, elle a la particularité d'être extrêmement résistante. Donc ça m'a beaucoup émue, cette histoire de fleur de pierre qui résiste aux chaleurs immenses, qui a besoin de très très peu d'eau. Et qui provient de l'ère mésozoïque. Donc on imagine que c'est une ère d'il y a très 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 longtemps, même si on ne sait pas exactement quand c'est.
C'est peu importe, c'est dans la chanson La Succulente. Ça.
C'est ça.
Ouais, j'ai noté ça. J'ai noté d'ailleurs une citation dans cette chanson. Tu dis, je mets toute mon énergie dans ce non-sens qu'est la vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Qu'il y a beaucoup, pour moi en tout cas, de moments absurdes. Il y a plein de moments où je suis dans les ok, la vie c'est ça, quoi bon vivre si c'est ça, mais je pense comme pas mal d'artistes et puis même d'autres personnes, et que la réponse à ça, c'est la seule réponse que je trouve, c'est de mettre quand même toute mon énergie à vivre. En fait, c'est aussi simple que ça.
Ah, en fait, c'est toi qui parles, c'est pas cette plante.
Alors, c'est pour ça que cette petite fleur de pierre m'a beaucoup émue, c'est qu'elle résonnait fortement
avec
par rapport
toi-même
à ce que je ressentais. Ouais.
On va pas écouter cette chanson. Je te dirai tout à l'heure pourquoi, mais j'aimerais bien qu'on écoute une autre chanson. Alors, qui m'a intéressé pour deux raisons. La première, c'est que on y entend beaucoup de choses du point de vue de l'instrumentation, et on va en parler parce que c'est quand même un des aspects importants de ton projet. Et aussi que dans cette chanson, tu as demandé à ton vieux prof de lycée de faire la traduction en latin, donc du texte que tu avais écrit, Mes heures d'univers. On l'écoute tout de suite, on en parle après.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Mes heures d'univers, le nez en l'air, rayonnement fossile, imbibe mes cils d'une lumière âgée de 13 milliards. Phénoménal, fort respecté. astrale, destinée noire, des superstars, planète naine, la vie humaine, vide sidérale. L'homme est le Graal.
Voilà, c'était donc la chanson « Mes heures d'univers », chanson qui fait partie de l'album « De système solaire » de Delphine Coutant, qui est avec moi aujourd'hui et avec qui nous conversons justement à ce sujet. Alors là, Delphine, Voilà. J'aimerais bien d'abord que tu nous dises pourquoi est-ce que tu as éprouvé le besoin de faire traduire par ton vieux prof de lycée ton texte en latin et donc de le chanter en latin comme les chantres. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose d'un peu liturgique dans cette histoire. Explique-nous.
Bah, tout simplement parce que pour parler d'événements très très anciens, et là en l'occurrence je suis en train de parler de la lumière qui nous entoure, qui date de plus de 13 milliards d'années. Cette lumière dans laquelle on baigne, c'est une lumière qui date d'il y a très 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 longtemps. Et donc je me disais, le français c'est beaucoup trop récent pour parler d'un truc aussi ancien. Et les langues les plus anciennes que nous on connaît, en l'occurrence moi j'avais fait un petit peu de latin, donc je me suis dit le latin ça m'intéresserait bien. Donc moi j'ai pas du tout d'éducation religieuse, donc j'ai pas du tout j'ai pas été baignée dans de la musique en latin qui serait liturgique, ou même si j'ai écouté des choses très très belles. Mais par contre le côté un peu spirituel que ça m'évoque m'intéressait, qu'il y a un côté quand même... On est un petit peu dans les cieux, hein, dans toute cette histoire.
Effectivement, là, en l'occurrence, des cieux. Contrairement à la religion qui parle des cieux, mais où on se demande bien ce qui s'y passe. Et la présence divine n'est pas attestée dans les cieux. Par contre, les étoiles et les systèmes, les galaxies, elles y sont à coup sûr.
Voilà. Donc, pour moi, ça faisait sens. Et au moment où s'est posée la question de la prononciation, parce que je ne suis quand même pas une experte en latin, je ne parle pas couramment. Justement, j'ai demandé à ce professeur, M. Rival, des conseils pour la prononciation. Il m'a dit, il faut que tu choisisses, est-ce que tu veux le latin littéraire d'université ou est-ce que tu veux parler latin d'église ? Et en fait, j'ai choisi le latin d'église quand même, je pense, cette dimension un peu spirituelle. Et donc, c'est pour ça que je roule les R.
D'accord. Voilà. Alors, cette chanson, elle comporte aussi une longue plage instrumentale. Et là, ça va nous amener à parler de musique, parce que ce projet est certainement non seulement un projet poétique. Tu te présentes sur ton site de manière amusante. Je reprends la citation parce que je la trouve tout à fait marrante. Tu dis Delphine Coutant. Alors, tu parles de toi à la troisième personne. On a le droit. Hein. Aime se définir comme une troubadouritz, femme troubadour du 21e siècle. Poétesse, compositrice, musicienne, mais aussi un temps paludière. On en reparlera plus tard. Son œuvre se nourrit d'un lien fort à la nature. Alors, c'était vrai, effectivement, dans les albums précédents, et dans Parade nuptiale en particulier, on le ressentait très fortement. Là, en l'occurrence, on le ressent encore, mais ce qu'on a peu encore évoqué, c'est la démarche que tu as entreprise pour maîtriser un vocabulaire musical que peut-être tu ne possédais pas auparavant. Si j'ai bien compris, tu viens de passer des années en classe d'écriture au Conservatoire de Nantes.
Alors j'ai passé 4 ans, ce qui pour moi déjà est beaucoup, surtout quand on s'y met à l'âge que j'ai. Et en plus, il me manquait quand même certaines bases en solfège, donc il a fallu quand même que je m'accroche, quoi. C'était pas simple. Mais j'ai fait 4 ans donc, d'écriture, aussi d'arrangement, un peu d'orchestration. Je me suis aussi...
Qu'est-ce que c'est la différence entre arrangement et orchestration ?
Alors, orchestration, il y a vraiment... On prend tout l'orchestre. Donc, on est censé pouvoir écrire pour tout un orchestre. Arrangement, on peut très bien arranger pour piano, chant, pour 3 instruments. Mmh. Donc, il y a une différence de quantité. Et je me suis aussi inscrite en cours d'analyse, ce qui est beaucoup plus mathématique. Mais j'avais envie de comprendre un peu aussi de l'intérieur comment les choses pouvaient s'écrire autrement que par ma façon très, très intuitive jusqu'à maintenant de composer. Je ne faisais pas de partition, moi, avant. Ça me venait comme ça. Donc là, j'ai vraiment eu envie de me plonger dedans. Et aussi, j'avais du mal à me situer par rapport à un héritage musical. La chanson, c'est pas très très ancien. Alors justement, il y a l'histoire des troubadours là. Je me suis dit, si, en fait, moi, mes ancêtres musicaux sont les troubadours, troubéritz. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma musique ou dans la chanson que je fais qui pourrait être héritée aussi de choses forcément que j'ai entendues. Je viens d'une culture, donc en musique classique, c'est quoi ? J'avais besoin de tirer un petit peu des ficelles de qu'est-ce que je suis reliée à quoi de l'histoire de la musique. Donc, j'ai aussi suivi des cours d'histoire de la musique. J'ai vraiment fait la totale.
Bravo.
Ouais. Et après, je dirais que l'écriture m'a amené une technicité de gestes, de comment faire sonner ensemble les instruments, pas faire trop d'erreurs ou de choses qui s'annulent, même si des fois c'est beau, mais ça peut ne pas fonctionner.
Il y a beaucoup de règles, effectivement. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu as du coup suivi le cursus officiel, enfin, tu passais les examens,
oui.
Les épreuves d'écriture en loge tout un dimanche, oui. Où tu étais enfermé, oui. Avec tes partitions, t'as
oui,
fait ça ?
Oui, j'ai fait ça, ouais, avec pas le droit de toucher au piano, juste la partition et le crayon.
Mm-hmm.
J'ai fait ça, c'était dur. Hein. En même temps, les profs ont été vraiment très très soutenants, enfin, alors, parce que j'étais pas dans le même profil que les autres élèves.
Parlons des profs. Moi, j'ai connu dans un passé lointain, mais qui malheureusement est mort déjà depuis longtemps, ça fait 20 ans, Christian Villeneuve, qui était quelqu'un de formidable, quelqu'un qu'on retrouvait dans les concerts de chansons à la Bouche d'Air, dans les concerts de jazz au Panonica, qui écoutait et fréquentait toutes les musiques, qui acceptait dans sa classe des gens qui avaient des profils très divers. Il était probablement exceptionnel. Tout le monde l'a considéré comme ça, d'ailleurs, à ses obsèques, il y avait, la cathédrale de Nantes était pleine. Mais là, on a des jeunes, en fait, ils sont beaucoup plus jeunes. Hein. Comment s'appelle-t-il ?
Alors moi, j'ai eu Franck Lagarde.
Franck Lagarde, c'est ça.
Et Stanislas Janin.
Stanislas Janin, qui sont plus jeunes. Franck Lagarde, qui a travaillé avec des groupes de musique actuelle, je le connais un peu, on a eu l'occasion de converser quelques fois. Donc il a des ouvertures aussi. Ça t'a permis peut-être de faire le lien entre tes pratiques autodidactes et la culture académique qu'il était là en train de t'enseigner.
Oui, et puis ils m'ont vraiment accompagnée dans cette démarche. Ils m'ont aussi, on m'a jamais fait ressentir que j'étais à la ramasse, quoi. Enfin, au contraire, l'idée c'était que je trouve ma place. Donc c'est super. Ça m'a vraiment fait progresser. Et puis je me suis pas trop mal sortie, donc ça c'est bien.
Et sans souffrance.
C'est beaucoup d'efforts. Alors la souffrance, il y en avait, mais plus liée à la quantité d'heures à y consacrer, des moments où j'aurais eu aussi besoin, moi, d'être dans ma création, aussi à regarder des pierres et des cailloux. J'ai pas eu trop la place pour ça pendant que j'étudiais. Il a fallu que j'arrête le conservatoire, je pouvais encore faire une année.
D'accord.
Pour du coup me rendre disponible
pour
ma création,
l'approche scientifique et
Et puis faire de la place, avoir du temps. Enfin, moi, j'ai besoin de temps pour ça.
On n'a pas encore parlé des gens qui jouent avec toi, mais il va falloir qu'on le fasse. Mais je voudrais qu'on se fasse à nouveau un petit intermède. Et alors là, un tout petit intermède instrumental, tu vois de quoi je parle ?
Oui.
1, 2, 4, 3.
Ignition,
voilà. Donc on écoute ça très vite, c'est un petit instrumental. Et puis on parlera un peu des gens qui jouent avec toi, donc dans cet album de Système Solaire.
Bla, 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 bla.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
1, 2. 4, 3.
Thank you. Voilà, c'était le petit intermède musical qu'il fallait qu'on écoute. Il y a d'ailleurs dans ce disque, alors j'en parle comme ça, une petite parenthèse, des différences de format importantes. Là, on a une chanson d'une minute trente. Il y a aussi des chansons de 6 minutes et quelques. Tu t'es pas beaucoup préoccupé des durées, il semble-t-il. Hein. C'était pas ta question. La question, c'était, j'avais envie d'écrire ça, j'ai besoin de 5 minutes et demie pour le faire. Eh bien, je passe 5 minutes et demie. Tant pis si ça passe pas en radio.
Moi, je crois que j'assume de plus en plus le fait d'être sur un chemin de traverse et sur lequel je m'épanouis parce que justement, je suis très libre de faire les choses telles que je les ressens, telles qu'elles ont du sens pour moi. Après, moi, j'ai créé ma structure, mon label, alors avec toutes les limites que ça implique, hein, en étant beaucoup tout seul à avoir plusieurs casquettes.
Oui, il y a des gens autour quand même.
Il y a quelques personnes autour, oui. Donc j'ai un bureau d'assaut qui est très, très présent, que je remercie de tout cœur d'être là et d'être très impliquée sur tous les projets. Donc, à partir du moment où j'ai fait ce choix-là, alors ce choix qui par moment d'un non-choix, c'est vrai qu'on ne m'a pas non plus proposé des collaborations.
Un pont d'or pour aller chanter à The Voice, non, et non.
Mais je pense que je suis vraiment là où je suis bien, là où ça me ressemble. Et du coup, j'optimise cette place-là en me disant, bah, c'est une place finalement où j'ai une grande liberté. Donc,
On va parler de ça, mais parlons maintenant des gens qui t'entourent. Alors, tu as parlé de ton bureau, dans le livret de l'album, tu remercies un certain nombre de gens, et on voit bien, on a toujours besoin d'un entourage, même si tu sais être solitaire, et tu en as apporté la preuve depuis des années. En l'occurrence, il y a aussi une bande de musiciens et de musiciennes. Alors, faisons un peu le tour des musiciens et musiciennes qui travaillent avec toi sur Deux Systèmes Solaires.
Alors sur Deux Systèmes Solaires, il y a un quatuor à cordes et un trio de cuivres. Et ce n'était pas un quatuor et un trio déjà constitués. C'est-à-dire que j'ai été choisir les gens un par un en leur demandant s'ils voulaient bien me rejoindre sur cette aventure. Alors à la contrebasse, il y a Ronan Prual. Donc je commence par Ronan parce qu'on a déjà fait
déjà
pas mal voilà, de projets ensemble. Et là, il y avait beaucoup d'arrangements où il est demandé de jouer à l'archet, à la contrebasse. Et Ronan, j'adore son à l'archet. Je trouve que c'est quelqu'un qui joue magnifiquement bien. C'est pas évident, la contrebasse à l'archet. Et ça allait de soi, quoi.
C'est un garçon qui m'a stupéfié. La première fois que je l'ai vu jouer, c'était dans ton spectacle
Paranuptial.
Et il jouait à gauche de la basse électrique, comme un gaucher en inversant l'instrument, et puis il prend la contrebasse et il joue à droite. Et là, je me suis dit, ça, j'avais jamais vu ça. Et je pense que c'est rarissime. Donc, il est totalement ambidextre, puisqu'il joue quasiment du même instrument, puisque l'instrument est accordé de la même manière, aussi bien d'un côté que de l'autre. Ça doit se compter sur très peu de doigts de la main, les gens qui savent faire ça. Et il a une musicalité formidable, effectivement.
Oui, complètement, oui. Donc à côté de Ronan sur scène, donc il y a plusieurs violoncellistes qui se relaient. Le violoncelliste de départ, c'est Daniel Trutet avec qui je joue depuis très très longtemps. Oui. Daniel, on se connaît très très bien. Et donc il partage
le pupitre
avec Suzanne Fischer que tu connais très
plus
bien.
Que depuis longtemps.
Et c'est vrai que Suzanne, c'est aussi une évidence. C'est pareil, moi son aussi. Tant à l'archet qu'en pids, et puis chez Suzanne aussi, ce qui est super, c'est qu'elle chante très très bien et qu'il y a une grosse place pour les chœurs. Il y a un côté choral aussi dans ce disque. Et Suzanne, elle travaille souvent en doublon avec Cécile Lacharme, qui est donc une autre violoncelliste que j'ai découverte. Je ne la connaissais pas, Cécile.
Qui travaille régulièrement avec Colline Rio.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est super aussi avec Cécile. À l'alto, donc c'est Stéphanie Blais qui est aussi en doublon avec Gwenola Morin, qui fait partie ou qui, enfin, je ne sais pas s'ils jouent encore le Quatuor Ligère. En tout cas, ils ont beaucoup joué à une époque. Donc Stéphanie, j'ai vraiment vraiment été la chercher. Je connaissais personne qui la connaissait, et c'est en écoutant des choses sur Internet. Après, j'ai vu qu'elle avait joué avec Raphaël Anader, un petit peu avec Babix. Donc des références qui pour moi sont, me parlent quoi, en termes d'univers et puis d'exigence aussi. Et donc je l'ai contactée, donc c'était pas gagné, hein, ça me faisait un petit peu peur, Stéphanie au début. Et en fait, c'est une rencontre absolument géniale. Donc, non seulement elle joue très très bien, mais elle a aussi le groupe s'est très très bien constitué. Au violon, c'est Élise Kusmeruk qui m'a été conseillée par Ronan Prual. Elle est de Tours, Élise. Et c'est aussi une chanteuse, donc encore un profil qui m'intéressait. Du côté des cuivres, Jenny Violo, avec qui je joue depuis maintenant un peu plus de 2 ans, donc au trombone. Jenny, je lui avais fait passer un entretien au moment où on allait jouer sur la tournée du Piano du Lac.
Oui.
Où avant d'écrire pour l'Octuor, sur les mêmes chansons, j'ai écrit une version pour trio, piano, violoncelle et trombone.
Mmh.
Et donc Jenny a postulé. Et donc c'est une très très belle rencontre. Et Jenny m'a présenté à Benjamin Lebert au trombone.
Oui, avec lequel elle travaille souvent.
Et voilà, ce qui est génial avec eux, c'est qu'à la fois, quand ils ont des parties un peu solistes, ils n'ont pas du tout la même manière de jouer. Ils sont vraiment des personnalités très très différentes. Mm-hmm. Jenny, c'est direct, il y a un côté assez frontal, efficace. Benjamin, c'est hyper sensuel, c'est plein de sensibilité, plein de nuances. Ils ont vraiment deux façons de jouer. Mais par contre, quand les parties sont écrites pour être jouées ensemble, il n'y a rien qui dépasse, ils sont ensemble. Quoi.
Ils se connaissent bien, tous les deux.
Ils se connaissent très, très bien. Et enfin, à la trompette, alors c'est pareil, je n'osais pas trop l'appeler au départ, Geoffroy Tamizier.
Qui est quand même un très grand musicien de jazz de la scène nantaise,
oui.
Voire de la scène française.
Oui, hein, oui.
Est reconnu de tous, donc
voilà.
ses qualités et sa sensibilité aussi, d'ailleurs.
Ah bah complètement. Donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai appelé. Et là, j'ai eu un super accueil. Il me dit, j'adore ce que tu fais. Ok, super. C'est coucoul, c'est son expression.
Je me souviens d'avoir eu une conversation avec lui où il m'avait dit qu'il aimait beaucoup la chanson. Que c'était,
ouais.
C'était un domaine qui lui était sensible et cher et que c'était pas anodin pour lui. Et donc, j'ai pas été surpris, en fait, qu'il travaille avec toi. Pour moi, ça, c'est une bonne rencontre. Ça va nous donner l'occasion d'écouter un morceau dans lequel il s'illustre particulièrement. Tu vois de quoi je parle, j'imagine. Qui est une chanson intéressante. Il va falloir d'ailleurs que tu nous expliques un peu mieux. J'ai laissé faire. On l'écoute et on en parle après.
J'ai laissé l'herbe sécher, j'ai laissé faire, j'ai laissé l'herbe sécher.
J'ai laissé l'herbe sécher, j'ai laissé faire, j'ai laissé l'herbe sécher.
J'ai laissé l'herbe sécher,
j'ai laissé faire,
j'ai laissé l'herbe sécher.
Thank you.
Écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Voilà, c'était donc J'ai laissé faire, une chanson de Delphine Coutan, interprétée par l'Octuor dont elle vient de nous expliquer la composition et qu'elle a mis sur pied. Chanson dans laquelle on entend de bout en bout Geoffroy Tamizier chorusser, en fait, improviser des notes. C'est un bugle, hein, c'est pas une trompette. Là,
C'est sa trompette bouchée,
oui, c'est ça.
Voilà, ouais.
C'est une trompette bouchée. Et donc avec un son assez chaud, assez souple. Et donc, cette chanson-là, moi, elle m'a accroché particulièrement. Peut-être ça tient aussi à mon goût pour le jazz et peut-être aussi pour Geoffroy Tamizier, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Cette chanson-là, elle n'est pas évidente non plus à comprendre. Où va-t-on avec ce « J'ai laissé faire » là ? De quoi veux-tu nous parler ?
Alors là, je dirais que le déclencheur de l'écriture de cette chanson, c'est la lecture d'un philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard.
Ah.
Et dans un de ses essais, il y a une phrase qui m'a vraiment marquée. Il disait « Il y a des gens qui laissent mourir les pierres ». Il y a des gens qui laissent mourir les pierres.
Ça, c'est aussi extrait de la chanson Le sculpteur, je crois. J'ai laissé mourir les pierres.
Dans J'ai laissé faire, je dis J'ai laissé mourir les pierres.
C'est dans cette chanson-là.
Je le dis. Voilà. J'ai laissé mourir les pierres. En fait, quand j'ai lu cette phrase, elle m'a vraiment touchée parce que j'avais l'impression qu'au début de ma création, je laissais mourir les pierres aussi. Mais j'aurais jamais pensé écrire un truc pareil. C'est-à-dire que tout cet imaginaire que j'avais de choses figées, comme ça me plaisait pas, je voulais rien en faire au début. J'avais plutôt l'impression que c'était associé à quelque chose de très morbide, en fait. Donc je n'en voulais pas. Et en lisant Gaston Bachelard, qui tout d'un coup, qui dit, mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui laissent mourir les pierres. Au contraire, les pierres, il faut les faire parler, il faut en faire plein de choses. Ben, ça allait complètement dans mon sujet. Et puis moi, ça me faisait un bien fou de lire ça. Et donc dans cette chanson, je crois que je me suis emparée de ça. Au début, je suis quelqu'un qui laisse mourir les pierres, donc qui laisse mourir les pierres, j'ai laissé faire, et qui, à la fin, décide de les faire parler. Et on a aussi un moment musical où il y a Jenny qui joue, je lui ai toujours dit, il faut que tu joues le solo des pierres qui parlent, il faut que tu le penses comme ça, c'est un solo des pierres qui se mettent à parler. Et Geoffroy, il continue de faire lui son improvisation autour. Donc on a un très beau, on a deux pierres qui parleraient de manière complètement différente. Et pour moi, ça va avec ça, quoi.
C'est drôle parce que par association d'idées, à l'instant où tu parles, me revient le souvenir d'un musée des stèles que j'ai visité dans la ville de Xi'an en Chine quand j'ai séjourné en Chine il y a quelques années. Et à Xi'an, il y a un musée des stèles. Ce musée des stèles, ce sont des pierres, justement, qui toutes portent des inscriptions. Et si on fait un petit peu le tour des pierres portant des inscriptions dans les civilisations humaines depuis des millénaires, également des pierres qui parlent, des pierres qui sont importantes, il y en a des milliers, des millions peut-être. Et je ne l'avais jamais envisagé de cette façon-là, mais je trouve ça tout à fait intéressant de regarder ces pierres. J'avais été fasciné dans ce musée par ces, par ces pierres qui sont fichées ordinairement au bord des routes pour porter un message en quelque sorte, pour donner des indications ou pour porter des maximes, des, pour aider les gens à exister. Et les pierres qui sont souvent un support solide et durable.
Oui. Voilà. Quand on dit c'est gravé dans le marbre, c'est...
Exactement. Ouh. Ah oui, j'ai eu aussi l'occasion une fois d'aller à Carrare. Mmh. J'avais un ami sculpteur qui cherchait du marbre. Mmh. On était allé chiner du marbre à Carrare.
Ah oui.
C'est amusant, c'était il y a très très longtemps. J'ai envie qu'on parle quand même un petit peu, justement, tu l'as évoqué tout à l'heure, de la version A3, de ces concerts satellites, de finalement des déclinaisons diverses que tu donnes à ces deux systèmes solaires.
Les concerts satellites, j'y avais pas du tout pensé au départ, et en fait c'est né du plaisir que j'avais à côtoyer des personnalités scientifiques, de la générosité que ces personnes ont eue à me transmettre ce qui était transmissible, hein, tout ne l'est pas. Moi j'ai été quand même accueillie dans les réserves muséales du Muséum d'Histoire Naturelle par Denis Demarc, qui est responsable des collections, qui m'a consacré beaucoup de temps, qui m'a donné à toucher un petit bout de la Lune. Enfin, j'ai vraiment eu accès à des choses incroyables, quoi. Et en plus, des gens qui avaient des propos que je trouvais passionnants. Et je me suis dit, quel dommage, quand je vais présenter l'aboutissement de tout ce travail, ce sera sous forme de poésie, ce sera sous forme de choses qu'on qu'on peut pas forcément comprendre dans, toutes les étapes qu'il y a eu. Et j'avais envie que les gens aient accès à ce que moi j'avais pu vivre. Et donc j'ai proposé à ces personnes, enfin quelques-unes, on ne pouvait pas le faire non plus avec tout le monde, mais de faire un concert satellite, c'est-à-dire c'est sous la forme d'un duo. Moi je suis piano-chant, souvent avec mon piano numérique, c'est vraiment très très simple. Et en duo donc avec soit donc là Denis un paléontologue, ça peut être un géologue, ça peut être je vais en faire un avec un planétologue bientôt que j'ai côtoyé au laboratoire de planétologie. Et donc on croise, on construit ensemble le concert satellite, c'est jamais le même hein, selon l'interlocuteur. Et on met en face, moi je dis voilà, tu vois telle chanson, je l'ai écrite quand tu m'as parlé de l'astéroïde qui est tombé là et que les dinosaures, ça, voilà, ça a été la fin des dinosaures, tout ça. Est-ce que toi, t'aurais envie de dire quelque chose, donc c'est l'apport scientifique hein, de ça. Et on croise, du coup, tes prises de parole et moi, mes chansons. Et on présente ça dans ces lieux qui m'ont inspirée. Donc, par exemple, on en a fait un au muséum au milieu des collections. On en a fait un au planétarium sous la voûte avec projeté notamment cette fameuse constellation des sculpteurs dans la galaxie. Tout ça. On en a fait un aussi avec une philosophe, Gaëlle Pinon, parce que moi ça m'intéressait aussi sur le plan philosophique.
Vous avez parlé de Bachelard du coup.
Alors moi j'en ai parlé, après elle avait plein d'autres choses à raconter.
D'accord.
Et donc moi j'adore en tout cas emmener les gens dans ce qui moi m'a permis de créer mon œuvre et qui en même temps est tellement intéressant. Et j'en ai aussi fait qui m'ont beaucoup plu. J'ai fait, à chaque fois, c'était décliné sous le nom soit géoloconcert, astroconcert. Et j'ai fait aussi un lithéoconcert avec les bibliothécaires de la Halvec. Et là, je leur ai demandé de choisir, eux, des textes de littérature ou de poésie qui résonnaient pour eux en lien avec les chansons. Mais c'était complètement, du coup, leur choix avec leur sensibilité. Et j'ai adoré ce moment aussi de scène qu'on a partagé. En fait, moi, ça m'enrichit énormément. C'est jamais la même chose. Pour moi, c'est important quand je me lance dans une aventure de spectacle ou d'album, de me dire que ça va, comme ça va m'accompagner 3 ans, 4 ans, de me dire que je vais toujours apprendre, je vais jamais m'ennuyer, je vais toujours, ça va toujours être nourri de plein de choses. Et là, c'est vraiment le cas avec ces concerts satellites. Et l'autre déclinaison dont on parlait en trio, elle nous a permis de donner des concerts sur l'eau avec le piano du lac et de transformer le piano flottant en un espèce de vaisseau intersidéral. Et là, j'ai plus développé le côté science-fiction, mais science-fiction un peu des années 80. Il y a des costumes un peu datés quand même, et on a pu mettre pas mal d'humour. Et là, c'était intéressant de toucher un public familial. Et grâce au côté un peu drôle, et puis ce piano sur l'eau, et on a fait vivre nous des personnages. Il y avait Daniel, il s'appelait Super Stellarum. Moi, je m'appelais Fossilis Fulgor, on avait des noms un peu de super-héros. et ben ça donnait beaucoup d'accroche pour le spectateur, et c'était très facile de l'embarquer après dans des chansons plus abstraites, et donc c'était une très bonne expérience aussi.
Donc ça, c'est effectivement la déclinaison Piano du Lac. Le Piano du Lac, ça fait des années que tu le fais. J'ai pas envie qu'on s'éternise sur tous ces projets-là, parce que t'es tellement productive qu'on n'en finirait pas. Il y a aussi les concerts dans les marais salants, il y a les concerts accrochés dans les arbres. On en parlera peut-être une autre fois. Mais pour revenir à Deux Systèmes Solaires, aux concerts qui viennent, il y a effectivement, tu parlais de costumes, il y a une scénographie, c'est-à-dire que tu as aussi cultivé quelque chose fortement du point de vue de la mise en espace, de la mise en scène, de la mise en image. Tu peux en parler un petit peu?
Oui, parce que c'est vrai que visuellement, je cherchais toutes les connexions qu'on allait pouvoir faire avec la thématique. Pour moi, c'est important que ce soit une espèce d'univers global. Et donc c'est Pascale Bérény qui a travaillé sur les costumes et la scénographie. Et elle est vraiment partie dans à la fois ses idées de minéral et aussi de personnages un petit peu... On n'est plus vraiment des êtres humains, on est à mi-chemin entre l'être humain qui se transforme. Il y a des petites choses qui sortent de nos costumes, des prolongations. Moi, j'ai une coiffe qui évoque la coiffe, la tête de Méduse aussi, ce personnage mythologique.
Qui est changé en pierre, ce qu'elle regardait.
Oui, voilà. Il y a aussi un élément scénographique que je trouve très très beau. Elle a fait ça, Pascale, avec des tissus, mais c'est comme une grande colonne en fond de scène, et selon l'éclairage, donc la création lumière de Jean-Pierre Sabiron, on ne sait pas si on est devant de la roche en fusion, si on est devant un minéral avec des cristaux, mais de pierres précieuses, on ne sait pas lesquelles, ça peut changer de couleur, ou dans des grottes, où il y a quelque chose de très très fort sur le plan visuel, grâce à cette colonne et l'éclairage.
Alors, ce spectacle-là, à 8, vous le présentez au moment où l'émission passera, il sera déjà passé à Beaupro. Par contre, vous le présentez le 15 décembre à La Bouche d'Air, et il sera joué ensuite avec l'autre partenaire qui est le Trianon Transatlantique à Rouen, c'est ça?
Oui.
Ça, c'est Sotteville, au mois de janvier.
Sotteville-lès-Rouen, oui. Très exactement. Ce sera en janvier.
Est-ce qu'il a un avenir? Est-ce que c'est facile de trimballer un spectacle comme ça sur d'autres scènes?
Alors, ça ne va pas être forcément facile. Après, nous, on a la chance cette année d'être accompagnés par Musique et Danse, avec le dispositif Traverse, qui fait qu'il y a une série de dates dans le département. On va jouer à Savenay, on va jouer à Châteaubriant, on va jouer à Ancenis. Donc tout ça...
Au premier semestre 2023.
C'est beaucoup en mai,
d'accord,
ces dates-là. Il y a aussi, on va pouvoir montrer notre travail, il y a un showcase musique et danse en janvier. Oui. Donc là, c'est l'occasion aussi de rencontrer les diffuseurs.
J'y serai.
Très bien. Et après, moi, j'espère beaucoup pouvoir le diffuser sur la saison prochaine, mais c'est sûr que c'est un plateau qui est, on est nombreux.
C'est lourd.
Donc forcément, il y a un coût. Mais moi, j'ai envie de le défendre. Donc il y a un moment, c'est vrai que en croisant des chargés de diffusion, on m'a dit, tu devrais quand même essayer plutôt de vendre du duo ou du trio. J'ai dit, niette, non, moi, c'est l'octoire ou le concert satellite. Voilà.
Là, tu restes en fait dans la même logique que celle que tu évoquais tout à l'heure en parlant de comme le café et ainsi de suite. C'est-à-dire, puisque tu es hors des clous, tu continues à être hors des clous, tu ne les fais pas comme les autres. Alors effectivement, le modèle économique n'est sûrement pas évident à porter. Mais qui sait, peut-être que vous réussirez à le faire.
Oui, et puis même s'il n'y avait pas après plein de dates, ou même ne serait que quelques dates, s'il n'y a pas ça, c'est déjà très beau ce qui se passe cette année. Moi, je suis déjà très heureuse, ça a donné naissance à cet album. Donc de toute façon, il y a déjà...
Il va falloir qu'on se quitte.
Déjà.
Je vois l'heure qui tourne et je sais que l'heure est passée. On va se quitter sur une chanson. Tu parlais de la disparition des dinosaures. Elle est dans la dernière chanson de l'album, Il pleut. Donc on va écouter Il pleut pour se quitter, puisqu'on se quitte sur l'album avec Il pleut.
Très bien. Ouais, merci.
Merci beaucoup d'être venu parler de ce projet hors norme, de ce projet XXL, Delphine. Et puis bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup. Au revoir.
Il pleut des météores dans le décor. Il pleut passion pour la chasse au trésor.
Bon, c'est terminé pour aujourd'hui, on fait vite parce qu'on est en retard. La semaine prochaine, on se retrouve pour un cercle critique où on parlera de Lucinda Yakuza, Dominique A et Cécile Hercule. Allez, bon week-end, ciao.
Pends-toi à ma langue, pends-toi à ma langue et fais tout ça. Pends-toi à ma langue.